Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Vous entendrez le président haïtien dans ce magazine. Michel-Joseph Martelly a été reçu par Benoît XVI. Vous entendrez également le patriarche latin de Jérusalem. Il nous dira son scepticisme à propos de la trêve intervenue mercredi soir entre Israël et le Hamas. Nous parlerons également de la pauvreté et de l'égalité homme-femme, ainsi que du plaidoyer prononcé ce jeudi par le pape en faveur de la réinsertion des détenus. Nous commencerons ce magazine en donnant la parole au patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foitoile. Il a accepté de nous livrer ses impressions après l'entrée en vigueur mercredi soir d'un cessez-le-feu mettant fin à 8 jours d'hostilité meurtrière entre Israël et Gaza. Des centaines de milliers de personnes des deux côtés ont vécu dans la terreur d'explosions provoquées par les roquettes palestiniennes ou des bombardements israéliens. Monseigneur Toile, vous allez l'entendre, affiche une satisfaction très mitigée.
Oui, je préfère la trêve à la guerre, mais je ne suis pas satisfait parce que la trêve est un moment absence de guerre et absence de victimes, loin d'être une solution juste, durable pour tout le monde. Et mieux que la trêve, je préfère la paix totale et pour tout le monde, basée sur la justice, le droit et le respect de l'être humain. D'ailleurs, cette trêve, plusieurs promoteurs, plusieurs protagonistes ont mis la main dedans et nous avons tous ici l'impression, un peu peur, qu'elle ne tient pas beaucoup, cette trêve-là. Cette guerre de 5 jours qui n'a aucun sens, elle était nécessaire pour rien, pour personne. Ils l'ont déchaînée et ils ont vu que tous ont perdu dans cette guerre.
Pensez-vous justement que du côté du Hamas, on soit vraiment sincère dans la volonté de stabiliser les choses?
Pour la première fois, c'était Hamas à mettre des conditions pour s'arrêter. Israël a senti le coup mal. Et imaginez-vous toute la population de Tel Aviv enterrés dans les refuges pendant 5 jours, et tout ce que ça comporte pour l'économie, la vie, les écoles, les banques et tout le reste là. Et imaginez-vous la population qui voit arriver ces roquettes à Tel Aviv, à Jérusalem. Elles ont eu une expérience jamais vue dans le passé.
Le fait, comme vous l'avez souligné, que plusieurs acteurs se soient impliqués pour obtenir cette trêve, est-ce selon vous une bonne chose justement que les Occidentaux, notamment les Américains, mais aussi l'Égypte notamment, se soient impliqués?
Oui, c'est bien, nous aimons la solidarité de tout le monde parce que la Terre Sainte est chère à tout le monde, mais protagonistes doivent être les Israéliens eux-mêmes et les Palestiniens eux-mêmes. Ok, très bien, nous comptons sur l'intervention des amis, mais j'ai peur que d'autres amis sont intervenus pour avoir du crédit.
Vous allez vous rendre à Gaza le 16 décembre prochain pour célébrer oui. Noël. Qu'allez-vous oui. dire à la population de Gaza cette occasion?
Premièrement, je vais encourager les miens. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une église dont les vitres ont tenu le coup devant tant de bombardements. Fait consoler ceux qui ont perdu les victimes, encourager, prier, nous mettre entre les mains de Dieu, essayer de créer, d'encourager une culture de paix, de dialogue, éloigner de nous cette affaire de violence qui désormais est dans les gènes des jeunes, parce qu'ils sont nés et grandis dans cette atmosphère de violence. Et dommage, et dommage, et dommage. Et ces jeunes-là qui regardaient les bombes tombées, là, ils n'avaient pas peur, ils ne savaient pas où aller. Alors regardez volontiers comment ça se passe. Alors que d'autres, ils ont le privilège d'avoir des refuges où se mettre. Et ceci, regardez venir, regardez mourir, regardez se mutiler, etc. C'est mauvais, mauvais et mauvais.
Le patriarche latin de Jérusalem, interrogé par Xavier Sartre. Autre situation de conflit dans l'est de la RDC où des combats opposent les forces régulières aux rebelles du M23 qui ont gagné du terrain ces derniers jours. Réunis à Kinshasa, les présidents des conférences épiscopales d'Afrique et les évêques présidents des Caritas d'Afrique venus de 34 pays du continent ont appelé solennellement à l'arrêt de la guerre et au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils se disent indignés et choqués par cette guerre qui est en train de s'étendre. Une fois de plus, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont jetés sur les routes, dans un dénuement total à Goma et dans ses environs. Ils sont à la merci des intempéries, de la faim, du viol et de toutes sortes d'exactions, y compris l'enrôlement d'enfants. Pour les signataires, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être protégée et l'exploitation illégale des ressources naturelles, qui est la principale cause de cette guerre, doit cesser. Les évêques africains lancent un appel pressant aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, au gouvernement de la République démocratique du Congo et au gouvernement des autres pays impliqués de quelque manière que ce soit dans cette guerre, ainsi qu'aux entreprises multinationales du secteur extractif, pour qu'ils trouvent de toute urgence une solution juste et concertée au combat. Les auteurs de tant de violences et de destruction ne doivent pas rester impunis. Souvenez-vous, il y a pratiquement un an, en décembre 2011, Benoît XVI se rendait à la prison Rebibbia de Rome un dimanche. Durant cette visite, le pape plaidait pour un plus grand respect de la dignité humaine et de meilleures conditions de vie pour les détenus. Ce sont les mêmes préoccupations qui parcouraient son discours ce jeudi midi aux quelques 200 participants à la 17e conférence des directeurs des administrations pénitentiaires du Conseil de l'Europe. Pour Benoît XVI, la prison n'a pas pour vocation uniquement de punir les coupables, elle doit promouvoir leur rééducation. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Tout en reconnaissant que pas mal de progrès ont été enregistrés pour améliorer le monde carcéral, Benoît XVI a tenu à rappeler que la fonction de rééducation liée à la peine ne pouvait être considérée comme un aspect accessoire ou secondaire du système pénal. En d'autres mots, a déclaré le pape, il ne suffit pas de punir le coupable, mais il faut à tout prix faire le maximum pour corriger et améliorer l'homme. Si cette orientation n'est pas privilégiée, la justice n'est pas réalisée de manière intégrale, la peine s'avère contre-productive et pousse à la récidive, accentuant la tendance à la délinquance et la dangerosité sociale de la personne. Il faut donc travailler, ajouter le pape, de manière concrète et pas seulement par des affirmations de principe, à une véritable rééducation de la personne qui s'impose non seulement en fonction de sa dignité d'être humain, mais aussi en vue de sa réinsertion sociale. L'exigence pour le détenu de vivre en prison un temps de réhabilitation et de maturation est une exigence de la société elle-même, mais il faut que le détenu passe le temps de sa détention dans les meilleures conditions de respect de la dignité humaine. Le pape mettant l'accent sur le sort notamment des détenus étrangers, souvent fragiles. Benoît XVI a encore tenu à observer que la tendance actuelle est de restreindre le débat à l'aspect législatif en matière de crimes et de sanctions ou à tout ce qui entoure le moment du procès jusqu'à la sentence, qui se doit bien évidemment de correspondre le plus possible à la vérité des faits. Mais que malheureusement, on accorde moins d'attention aux modalités d'exécution des peines de détention. Malgré des progrès, il reste beaucoup à faire donc selon le pape et rien ne sert de prétexter des questions de coûts financiers. Il faut avant tout faire évoluer les mentalités.
Les chefs d'État se succèdent ces jours-ci au Vatican et ce jeudi matin, Benoît XVI a reçu le président haïtien Michel-Joseph Martelly, qui a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone et Mgr Dominique Mamberti, secrétaire pour les rapports avec les États. Dans une ambiance cordiale, les entretiens ont permis de passer en revue un certain nombre de questions d'intérêt commun, comme les bons rapports bilatéraux et la contribution offerte par l'Église locale grâce à ses institutions éducatives, sociales et caritatives. Cette contribution a été particulièrement importante lors du tremblement de terre qui a dévasté Haïti et pendant la période de reconstruction. Les deux parties se sont dites disposées à poursuivre leur collaboration pour le développement harmonieux de la société haïtienne. Haïti a été également très affecté par le passage de l'ouragan Sandy. Au début du mois, le gouvernement haïtien a appelé la communauté et les organisations internationales à lui fournir une aide humanitaire d'urgence. À l'issue de sa rencontre avec le pape, le président Martelly a souhaité s'exprimer sur les fréquences de Radio Vatican.
Ma visite aujourd'hui au Vatican, c'était d'abord pour remercier l'Église catholique du bon travail qu'elle fait un peu partout à travers le monde et bien sûr dans le cadre de la promotion des valeurs. C'est très important pour nous puisque un pays, ou du moins une île, une terre, n'a de valeur sans les hommes qui l'occupent. Et ces valeurs, il faut bien sûr qu'elles nous soient inculquées. Et c'est dans ce sens qu'on remercie l'Église pour tout ce qu'elle fait, l'éducation. Dans cette rencontre, on a profité pour parler aussi de la reconstruction des églises. Haïti a été frappé par le séisme de 2010 qui a détruit et pratiquement 70% de nos églises. Donc on a parlé de la reconstruction des églises, d'un potentiel partenariat pour que ça soit fait.
Quel est le groupe de la population qui est le plus frappé par la crise que connaît votre pays, Monsieur le Président?
Bon, certainement, en Haïti, après que la corruption se soit installée en maître, après que le banditisme se soit installé en maître, après qu'on ait institutionnalisé le désordre, il y a eu deux groupes de personnes, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Donc moi, je dois vous dire que le séisme a frappé particulièrement, je dirais un peu tout le monde, mais en majorité ceux qui n'ont rien, puisque plus vulnérables, donc leurs constructions étaient les plus anarchiques, les plus vulnérables, et ce sont eux. Et en fin de compte, c'est toujours cette même classe qui est victime.
Et la communauté internationale s'est déjà mobilisée aussi pour votre pays, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Et quelle aide votre pays a-t-il encore besoin pour le moment?
Récemment, avec le passage de ces deux cyclones, à chaque fois qu'il y a des inondations, on sauve des vies. À chaque fois qu'il y a des inondations, on apporte de la nourriture. À chaque fois qu'il y a des inondations, on déplace les gens. Mais en fin de compte, il y a moyen de gérer tout ça. Si on arrive à curer nos canaux, si on arrive à protéger les berges, si on fait le gabionnage de nos rivières, et ceci, ça a un coût énorme. Mais il est important de le faire parce que l'eau, quand l'eau descend, il faut qu'elle aille en quelque part. Et si nous arrivions à l'amener à la mer, là, il y a plus de dégâts. Donc pour ça, il faudra bientôt investir de façon importante dans le reboisement, puisque moins de 5% couverture forestière, moins de 3% couverture végétale. Donc il est important pour nous aujourd'hui de penser à reboiser notre pays, important de penser à curer nos rivières, draguer la baie de Port-au-Prince en sorte que nous puissions vraiment arrêter de jouer ce rôle de pompier et arrêter de rendre encore plus vulnérables ceux qui sont déjà vulnérables.
Avez-vous un message spécial pour l'opinion internationale qui suit Radio Vatican ou un mot de la fin, Monsieur le Président?
On a besoin de compagnies qui viennent et qui fassent affaire, qui créent des emplois. C'est à travers l'emploi durable qu'Haïti se relèvera. Donc on attend nos amis, on attend ceux qui veulent vraiment nous aider, qu'ils voient la chose d'une autre façon. Aidez-nous à développer notre pays, ne nous faites pas des dons, venez investir, venez voir nos richesses, venez voir le potentiel de ce pays qui a une culture riche, diverse, et on a tellement de potentiel. Donc j'invite le monde à venir connaître notre peuple chaleureux, hospitalier, et à partir de là, je crois qu'on aidera Haïti à prendre en main sa destinée, et c'est ce qui compte pour moi. Je voudrais qu'Haïti sorte de ce système d'assistanat. Je voudrais que notre image change, et je travaille déjà à la refaire, cette image, qu'on ne nous voit plus comme des miséreux, comme des malchanceux. Nous sommes un peuple vaillant, nous savons travailler, nous savons nous battre, surmonter des obstacles. Donc aujourd'hui, il s'agit d'avoir la vision idéale, d'avoir un objectif et de l'atteindre.
Le président haïtien interrogé par Jean-Pierre Bojoko. L'ouragan a causé d'importants dégâts sur l'île d'Haïti, faisant déborder les rivières, détruisant 70% des récoltes et causant de lourdes pertes de bétail. Les Nations Unies estiment qu'1,5 million d'Haïtiens sont touchés par les conséquences de la catastrophe. Le séjour du président Martelly à Rome prévoyait également une rencontre avec le directeur de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et une rencontre avec la presse pour faire le point sur la situation alimentaire en Haïti après le passage de l'ouragan Sandy. Michel Joseph Martelly vient de participer à Cadiz en Espagne au 22e sommet ibéro-américain réunissant une vingtaine de pays de l'Amérique latine sur le thème de la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, justement. Le 29 novembre, à l'initiative de l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, aura lieu la journée Why Poverty. Une journée pour tenter de susciter un débat autour de ce problème central qu'est la pauvreté. Radio Vatican vous propose à cette occasion une série de reportages sur les luttes contre la précarité à travers le monde, des combats auxquels s'associe bien sûr l'Église catholique. Des luttes, mais aussi des questions. Comment tisser une relation avec les pauvres? Comment parvenir à briser la distance qui nous sépare pour essayer de les comprendre? C'est sur cette question délicate que s'est penché Christian Manuel. Ancien médecin, aujourd'hui retraité, il a décidé de se consacrer aux personnes touchées de plein fouet par la misère. Il est ainsi parti à la rencontre de SDF. Il a déjeuné avec eux, les a écoutés et même devenu ami avec certains. De son expérience, il en a tiré un recueil, La voix de l'autre, Entendre la pauvreté, paru aux éditions La collabore et Fidesz, un recueil de différents articles dont il est le directeur. Il y explique les relations que chaque être peut tisser avec les plus pauvres, des liens toujours extrêmes. Justine Vassogne a recueilli son témoignage.
Je vais peut-être vous faire sursauter. Je me suis souvent dit que être SDF dans une rue de grande ville depuis des années, ça a une analogie avec être déporté. Ça parle quelquefois plus dans l'esprit des gens, parce que quand les gens voient quelqu'un dans la rue, oh, ça leur fait finalement ni chaud ni froid. Mais les points communs, c'est d'avoir faim, d'avoir froid, d'être soumis à des violences, parce qu'il y a des bandes de SDF qui viennent en découdre avec d'autres SDF plus fragiles et qui les frappent et qui les volent et qui les dépouillent. Il y a l'absence de soins, et il y a le fait qu'on est totalement dans l'incertitude du lendemain et que tout peut vous tomber dessus à tout moment, y compris la mort.
Et c'est aussi difficile pour celui qui essaye de se rapprocher du SDF.
Vu de mon point de vue, pourquoi c'est extrême ? Parce que c'est un travail très difficile qui requiert de l'attention, de la mémoire, de la patience, une absence totale de sensibilité épidermique, parce que les débuts d'une relation avec des SDF peuvent être extrêmement difficiles, parce que ce sont des gens qui sont complètement refermés sur eux-mêmes pour résister à l'agression ambiante permanente. Et il faut arriver à trouver une petite faille.
Dans votre préface, vous avez cette phrase quand vous parliez d'Eugénia, si je ne me trompe pas.
Eugénia, oui.
Oui, voilà. Et vous dites « je ne sais plus qu'elle est pauvre ». Est-ce que c'est là aussi une des clés, c'est-à-dire de ne plus savoir qu'en face de nous, on a une personne pauvre pour tisser une relation avec elle ?
Le jour où les gens s'ouvrent, les discussions plongent dans un abîme de profondeur absolument incroyable. Et à ce moment-là, on découvre que sous la coque de vêtements élimés et sales, de mauvaises odeurs de pas lavées, d'imbibitions alcooliques, il se cache une âme qui est un trésor et que ces gens ont des visions métaphysiques et des perceptions de la réalité divine qui sont absolument stupéfiantes. À ce moment-là, c'est vrai qu'on est tellement en face de la créature créée par Dieu et pas de cette espèce de bonhomme ou de bonne femme un peu avachie et abîmée par la vie qu'on ne voit plus rien de tout ça. On ne voit plus que ce qui fait battre son cœur. Et qu'on peut battre à l'unisson.
Christian Manuel, auteur de La voix de l'autre, Entendre la pauvreté, paru aux éditions Labor et Fides. La promotion de l'égalité des hommes et des femmes est une évolution positive, mais tellement rapide que des inquiétudes se manifestent. C'est sur cette problématique que les Semaines sociales de France vont se pencher en cette fin de semaine du 23 au 25 novembre au Parc Floral de Paris, autour du thème « Hommes et femmes, la nouvelle donne ». Comment penser la différence entre les deux sexes dans le travail, au sein de la famille ou de l'Église aujourd'hui ? Autant de questions qui animeront les nombreux débats proposés pour cette 87e session à laquelle participent entre autres la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, Viviane Reding, et la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Des associations et mouvements comme le Secours catholique seront invités à parler de leurs actions ou réflexions. Xavier Sartre.
La dynamique de l'égalité homme-femme dans les sphères économiques, sociales et politiques a bouleversé en quelques décennies une hiérarchie plus que millénaire entre les sexes. Elle a ébranlé les conceptions traditionnelles de la répartition des rôles masculins et féminins. Le président des Semaines sociales, Jérôme Vignon, relève que le principe de cette égalité fait désormais partie des droits fondamentaux en démocratie. Pourtant, les résistances sont nombreuses. Les stéréotypes ont la vie dure, la parité en politique tarde à s'accomplir, l'éducation reste marquée par des spécificités masculines et féminines. Cela est vrai également pour l'Église catholique, où l'accès au ministère est fortement différencié. Le président des Semaines sociales de France se demande si ces résistances révèlent la nostalgie d'une société patriarcale ou si elles sont le signe d'une résistance à une uniformisation des sexes. De fait, un trouble certain gagne la société, alimenté par les idées qui accompagnent les analyses du genre comme pure construction sociale. Si l'identité des sexes n'est que le fruit de la culture dominante, que veut dire alors être homme, être femme ? Les différences hommes-femmes seraient-elles contingentes ? Pour Jérôme Vignon, Le défi est de se libérer des peurs et des rapports de domination et de progresser vers l'égalité tout en prenant acte des différences.
Et l'archevêque élu de Canterbury, chef spirituel des Anglicans, a affirmé que l'Église d'Angleterre finirait par inclure des femmes évêques. Justin Welby a affirmé devant la presse qu'il n'avait aucun doute à ce sujet. La mesure a été rejetée lors d'un synode cette semaine à Londres. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.